Le journal. Bonjour Aurélie Kiefer.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le coup de force de Boris Johnson, le Premier ministre, a demandé la suspension des travaux du Parlement, déclenchant la fureur de l'opposition qui compte bien riposter. Nous irons à Londres dans un instant. Sylvie Goulard, candidate française pour la Commission européenne. À Bruxelles, tout le monde reconnaît les compétences de l'ancienne ministre et eurodéputée, nous dira Angélique Boin. Les nouveaux habits du MEDEF, son université d'été rebaptisée Rencontre des entrepreneurs de France, est largement consacrée au grand débat de société, analyse d'Anne-Laure Jumet. Et puis la protection des espèces menacées est renforcée, le commerce des girafes et des requins macos notamment va être plus sévèrement encadré. Le président du Parlement britannique dénonce un scandale constitutionnel. John Bercow, pourtant conservateur, ne décolère pas depuis la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement pendant 5 semaines jusqu'au 14 octobre. Boris Johnson en a le droit. D'ailleurs, la reine a approuvé sa demande cet après-midi. Mais cette initiative est inédite et quelque peu douteuse sur le plan démocratique puisqu'elle va priver les parlementaires de débat sur le Brexit à un moment clé, Antoine Gignoux.
Absolument, oui. La suspension du Parlement, en théorie, c'est une procédure légale, classique, un peu comme si vous appuyiez sur le bouton de réinitialisation d'un ordinateur. Tout reste en place, mais le système redémarre et une nouvelle session parlementaire s'ouvre, généralement une fois par an. Mais habituellement, cette suspension ne dure que quelques jours et en fixant le délai à 5 semaines environ, Boris Johnson prive les parlementaires de toute possibilité de s'opposer au Brexit. Les députés de l'opposition qui comptaient profiter du mois de septembre pour faire voter des lois, pour interdire une sortie sans accord de l'Union européenne n'auront pas le temps de le faire. Réaction de colère. Vous ne pouvez pas juste vous débarrasser des députés parce qu'ils vous empêchent de faire ce que vous voulez, lance Caroline Lucas, la chef de file des Verts. Chez les libéraux démocrates, on parle de déclaration de guerre, d'un geste destiné à museler la population. Et Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, évoque une menace pour la démocratie. Le mot de dictature est même lâché par Nicola Sturgeon, la chef des indépendantistes écossais.
Mais alors Antoine, est-ce que l'opposition britannique les moyens de riposter?
En fait, du côté législatif et juridique, ce sera compliqué. Il reste très peu de temps pour lancer des actions en justice. La seule véritable possibilité pour les parlementaires, c'est de déposer une motion de défiance la semaine prochaine pour tenter de faire tomber Boris Johnson. Le Premier ministre n'a à l'Assemblée qu'une très courte majorité. Il n'a qu'une voix d'avance. Mais pour que cette motion de défiance fonctionne, il faudra que l'ensemble de l'opposition se range derrière Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes. Et rien n'est moins sûr. Ce qui pourrait changer la donne, c'est la mobilisation populaire. Ce soir, la pétition qui demande au gouvernement de ne pas suspendre le Parlement frôle les 450 000 signatures et le chiffre continue d'augmenter avec environ 1 000 signatures à la minute.
Antoine Gignoux en direct de Londres. Et en Italie, on attend l'issue des négociations entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate de centre-gauche. S'il n'arrive pas à former une coalition gouvernementale, le président annoncera la tenue de nouvelles élections. La France a donc choisi de présenter la candidature de Sylvie Goulard pour la Commission européenne. Actuelle sous-gouverneur de la Banque de France, Sylvie Goulard, 54 ans, a dirigé le ministère des Armées pendant un mois en 2017. Mais elle avait dû démissionner en raison des soupçons d'emploi fictif du MoDem au Parlement européen. L'ancienne eurodéputée est tout de même soutenue par Paris, qui mise sur son profil d'européenne convaincue, grande connaisseuse des dossiers et des institutions, Angélique Boin.
C'est une femme politique dont on loue ici les compétences. L'actuelle sous-gouverneure de la Banque de France a fait la majorité de sa carrière à Bruxelles comme conseillère politique du président de la Commission, Romano Prodi, entre 2001 et 2004, puis comme eurodéputée entre 2009 et 2017. Elle siégeait alors dans le groupe des libéraux. Elle était un membre très respecté de la Commission en charge des affaires économiques et monétaires. Union bancaire, gouvernance de la zone euro, supervision financière n'ont pas de secret pour cet énarque dont plusieurs sources louent le très grand professionnalisme. 30 ans dans les arcanes bruxelloises ont également permis à cette polyglotte qui parle allemand, anglais et italien de se faire un solide carnet d'adresses. Une femme au caractère bien trempé, précise d'anciens collaborateurs, cassante, disent ses détracteurs. Sylvie Goulard sera sans doute bousculée par les eurodéputés lors de son audition, passage obligé dans la procédure de nomination du futur collège des commissaires. Elle avait en effet démissionné du ministère de la Défense en 2017 après sa mise en cause dans l'affaire des emplois supposés fictifs du MoDem au Parlement européen. Mais elle n'a depuis été ni mise en examen, ni même auditionnée par la justice. Autre affaire qui pourrait l'affaiblir, sa rémunération comme conseillère par un think tank américain alors qu'elle siégeait à Strasbourg, 10 000 euros mensuels selon le JDD, à qui elle avait expliqué en 2017 qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêts puisque cette organisation a pour but de promouvoir l'Europe.
Angélique Bouin à Bruxelles pour France Culture. Quelques mois après l'échec du rapprochement entre Alstom et Siemens, un géant chinois met un premier pied sur le marché européen du ferroviaire. CRRC, spécialiste de la construction ferroviaire, s'apprête à acquérir l'activité de production de locomotives du groupe allemand Foslo. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir les kiffeurs.
Le groupe chinois pourra ainsi se familiariser avec les réglementations européennes, notamment les procédures d'appel d'offres, dans le but de poursuivre son offensive sur le vieux continent.
Oui, au-delà de l'aspect symbolique de cette opération, hautement stratégique pour le constructeur chinois, numéro 1 mondial du ferroviaire avec un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars, eh bien cette opération sera très importante en termes d'homologation, vu qu'en Europe, les procédures sont longues et très complexes. Car si le CRRC vend déjà ses trains, ses locomotives et ses métros hors de Chine, notamment en Asie, en Afrique et même aux États-Unis, 90% de ces ventes se font encore dans l'empire du milieu. Du coup, il a encore du mal à s'imposer sur le marché européen, ce qui ne l'a pas empêché Aurélie de décrocher certains contrats en Russie, en Hongrie ou encore en Serbie, face aux géants français et allemands que sont Alstom et Siemens, leaders sur le vieux continent. Cette acquisition est aussi stratégique sur le plan géographique, l'Allemagne étant un carrefour du marché européen du ferroviaire, elle bénéficie également d'un fort tissu industriel avec la présence du Canadien Bombardier, de Siemens et d'Alstom, ce qui lui permettra aussi de bénéficier de sous-traitants et d'une manœuvre hautement qualifiée dans le ferroviaire. Quant à savoir si cette opération donnera tort à la décision de la Commission européenne de refuser la fusion entre Alstom et Siemens en février dernier, l'avenir nous le dira, car pour l'instant, les carnets de commandes des deux constructeurs européens sont pleins pour plusieurs années.
Merci Hakim. Deux géants américains du tabac veulent unir leurs forces. Après avoir divorcé en 2008, les cigarettiers Altria et Philip Morris songent à fusionner à nouveau. Les ventes de cigarettes déclinent en effet. Ils veulent développer une stratégie commune pour s'imposer sur le marché de la cigarette électronique et promouvoir d'autres façons de fumer, ce qui va sans doute compliquer encore la tâche des régulateurs, Annabelle Grelier.
Oui, Altria vient d'acquérir 35% du capital de la start-up Juul, le leader des cigarettes électroniques aux États-Unis, quand Philip Morris vient d'obtenir l'aval de l'administration américaine pour lancer sur le marché un nouvel appareil électronique qui ne dégage pas de fumée, l'IQOS. Philip Morris mise sur la disparition à terme de la cigarette classique au profit de la cigarette électronique. À noter qu'aujourd'hui, ce marché est encore qualifié de confidentiel. On dénombre 36 millions de vapoteurs pour plus d'un milliard de fumeurs, mais il est en pleine expansion, d'autant que les cigarettiers, qui voient les ventes de paquets de cigarettes baisser inexorablement dans les pays occidentaux, tentent à grands coups d'innovation de changer leur image. Pour exemple, Philip Morris veut utiliser la technologie contenue dans ses nouveaux produits de vapotage pour offrir également des services de dépistage de santé. Des innovations qui plaisent particulièrement aux jeunes et qui inquiètent les régulateurs. Ils parlent de véritables épidémies. La ville de San Francisco d'ailleurs vient d'interdire toutes les cigarettes électroniques. Et puis vous vous souvenez également de la charge au début du mois d'août de l'Organisme mondial de la santé sur les cigarettes électroniques, qu'elle estimait incontestablement nocif. Cela avait provoqué une petite polémique parmi les experts, mais sans doute l'OMS voit venir le mouvement. Sur le terrain de la santé publique, la possible fusion des deux plus gros cigarettiers américains n'inspire en effet rien de très bon, car malheureusement, on connaît déjà leur force de frappe.
Merci Annabelle Grelier. Le bois de rose, les requins, les loutres cendrées, les girafes et les éléphants d'Afrique voient leur protection renforcée. Après 10 jours de réunion à Genève, la CITES, la Convention sur le commerce des espèces menacées d'extinction, a annoncé ses mesures en faveur des animaux et plantes les plus vulnérables pour éviter qu'elles ne disparaissent totalement. L'Union européenne salue les décisions prises, mais pas les pays d'Afrique australe qui ont réclamé en vain qu'on les laisse vendre leur important cheptel de pachyderme. Les précisions de Jérémy Lange.
Alors que les ONG de défense de l'environnement ont salué la plupart des mesures prises à Genève, plusieurs pays comme le Zimbabwe ne décolèrent pas. Le Zimbabwe, mais aussi le Botswana, souhaitaient pouvoir continuer de vendre leurs éléphants et leurs stocks d'ivoire en Asie. Devant le refus de la CITES, une dizaine de pays de la région ont menacé de quitter la convention. Ce serait une très mauvaise idée, selon le président de l'une des commissions de la CITES, Craig Hoover.
Au sujet des membres qui ont été frustrés par certaines décisions prises ici et qui voudraient quitter la CITES, j'espère que ça n'arrivera pas. L'une des raisons, c'est que si un membre quitte la convention, il doit quand même faire du commerce. Et pour cela, il doit respecter les mêmes obligations que les membres de la CITES. Il doit se doter d'équipes spécialisées. Il doit émettre des permis de vente. Ce que ce membre n'a plus, en revanche, c'est un siège à la table des négociations.
Un désaccord majeur qui ne doit pas cacher beaucoup de sujets de convergence. La CITES a renforcé la protection des girafes africaines. Leur nombre a diminué de 40% en 30 ans. 18 espèces de requins et de raies font également leur entrée à l'annexe 2 de la Convention. Cela n'empêche pas leur pêche, mais la soumet à un système de permis plus strict. Protection renforcée également pour plusieurs bois tropicaux comme le bois de rose, dont les réserves diminuent à vue d'œil, notamment au Ghana. Prochain rendez-vous pour la Convention, ce sera en 2022 au Costa Rica, un pays souvent érigé en modèle pour la conservation de la biodiversité.
Jérémy Lanche à Genève. Une saisissante découverte au Pérou. Un site de sacrifice massif d'enfants a été découvert près de la ville de Trujillo, au nord de Lima. Il remonte à la culture précolombienne Chimú et serait, selon les archéologues, le plus important au monde. Les explications de notre correspondant au Pérou, Éric Sanson.
Les enfants et les adolescents sacrifiés avaient de 4 à 14 ans. Ils étaient enterrés dans des dunes de la petite ville côtière de Huanchaco, la tête tournée vers la mer. Jusqu'à présent, les archéologues ont découvert 227 cadavres sacrifiés il y a 1200 voire 1400 ans. Aucun site au monde n'en présente autant. Apparemment, les enfants ont été sacrifiés pour calmer la colère des dieux de la culture Chimú après une série de catastrophes naturelles liées au phénomène du Niño. Les archéologues se basent pour le dire sur la découverte dans les fosses communes de traces de pluie normalement peu fréquentes dans cette région désertique. Les scientifiques sont d'autant plus étonnés que les fouilles de Pampalacruz commencent à peine à dévoiler leurs secrets. En avril 2018, à 2 km du site actuel, les archéologues avaient déjà découvert les restes de 140 enfants et 200 lamas sacrifiés un siècle avant l'arrivée du conquistador espagnol Francisco Pizarro au Pérou en 1532. La découverte des 227 cadavres d'enfants, parfois couverts de bijoux d'argent, prouve en tout cas que Huanchaco était la zone de sacrifice humain de la culture Chimú, qui a disparu au XVe siècle, victime de l'expansionnisme inca.
Et en France, des tombes de bébés et fœtus du début de notre ère ont été découvertes près des vestiges du rempart romain de Nîmes. Une soixantaine de tombes ont été découvertes au pied du rempart romain dans ce qui était une zone funéraire publique du 1er au 2e siècle. Y reposaient surtout des bébés de moins de 6 mois et des fœtus. Les ossements ont été trouvés dans des coffrages en pierre ou des amphores. Et les archéologues constatent que les parents avaient accordé un grand soin aux tombes de leurs enfants, même si dans la société romaine, l'enfant n'avait aucune existence juridique avant l'âge de 3 ans. Dans un parlement paralysé par l'affaire Benalla, l'examen de la révision de la Constitution avait été interrompu l'an dernier, puis reporté à deux reprises. Une deuxième version du projet de loi constitutionnelle a été présentée ce matin en Conseil des ministres. Trois textes, constitutionnels, ordinaires et organiques, viennent concrétiser des engagements électoraux d'Emmanuel Macron sur la réduction du nombre de parlementaires, la limitation des mandats dans le temps et une dose de proportionnelle aux législatives. Le projet est donc enfin sur la table, même s'il ne sera pas examiné tout de suite par le Parlement, Rosalie Lafarge.
Et non, pas à l'ordre du jour des débats parlementaires pour l'instant. Le calendrier est déjà très chargé, explique le gouvernement, mais ce n'est pas la seule raison.
Il ne me semble pas utile d'inscrire ce texte à l'agenda parlementaire tant que nous ne sommes pas certains de pouvoir obtenir un accord préalable.
Et cet accord, on n'y est pas, reconnaît Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Plusieurs points ont du mal à passer auprès des parlementaires. L'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives à hauteur de 20%, mais aussi bien sûr la réduction de 25% du nombre de parlementaires, même si elle a été revue à la baisse.
La réduction du nombre des parlementaires a évolué. Nous avons en quelque sorte diminué la diminution. Nous avons également bougé sur la représentation proportionnelle pour accorder une meilleure représentation des différentes tendances politiques. Donc, le résultat de cela, c'est que vis-à-vis du Parlement et notamment du Sénat, il y a un certain nombre de points qui ont été pris en compte. Pour autant, nous voyons bien qu'il y a encore des écarts et donc le dialogue va continuer.
Et la Haute Assemblée et son président ont un peu de mal avec la réduction du nombre de parlementaires telle qu'elle est prévue. Ce dialogue s'annonce donc au moins animé avec le Sénat. Mais de toute façon, pour l'instant, aucun rendez-vous n'a été pris selon l'entourage de Gérard Larcher.
Rosalie Lafarge. La privatisation de la Française des Jeux sera effective dans les prochains mois, indique Bruno Le Maire. Le principe avait été approuvé fin mai dans le cadre de la loi Pacte. Le ministre de l'Économie et des Finances a fait cette précision à l'université de rentrée du MEDEF. Une université d'été New Look, rebaptisée Rencontre des entrepreneurs de France. Elle se tient désormais à l'hippodrome de Paris-Longchamp, où vous vous trouvez, Anne-Laure Jumet. Et le choix du thème n'est pas anodin. Nos futurs, mais nos futurs avec des S, Anne-Laure, car le MEDEF se veut porteur de solutions.
Oui, et ça s'illustre d'abord par des symboles ici. Pas de bouteilles d'eau en plastique, pas de climatisation et un objectif de zéro déchet pendant ces deux jours. Dans son discours d'introduction, le président du MEDEF a détaillé son nouveau mantra sous les yeux de son prédécesseur Pierre Gattaz. Pour Geoffroy Roux de Bézieux, la première organisation patronale ne doit donc plus être seulement un MEDEF de combat, mais un MEDEF de solutions, vous le disiez, de propositions, avec parfois des accents qu'on entend peu chez un représentant patronal.
En France, l'ascenseur social, pas plus que l'escalier d'ailleurs, ne fonctionne. Il faut 6 générations pour qu'un fils d'ouvrier change de catégorie sociale. 6 générations. C'est un scandale, c'est le véritable scandale français. Le véritable scandale français, ce n'est pas que certains gagnent beaucoup d'argent grâce à leur talent, mais c'est que tous ne puissent pas avoir cette opportunité.
Et face à ces grands défis sociaux ou encore climatiques, les entreprises ont leur rôle à jouer, martèle le président du MEDEF.
Dans un monde de multiplication des parties prenantes, regardez le poids des ONG sur le G7, l'État n'a plus le monopole de l'intérêt général. Et je vous le dis, chers amis, au même titre que les syndicats de salariés, au même titre que les ONG, les entrepreneurs, vous, sommes dépositaires d'une partie du bien commun. Pas plus que les autres parties prenantes, mais pas moi non plus.
Demain soir, une centaine d'entreprises viendront d'ailleurs présenter ici un bilan chiffré de leurs engagements sur le climat. Voilà pour les solutions, mais le MEDEF de combat n'était pas totalement absent du discours du patron des patrons, qui a fait notamment entendre sa voix sur la question des retraites, histoire de rappeler au gouvernement ses lignes rouges à quelques jours de la rencontre prévue à Matignon.
Anne-Laure Jumet, en direct de la première rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF, avec Marc Garvenès à la technique. La candidature dissidente de Cédric Villani à Paris semble se confirmer. D'après le service politique de France Info, le député LREM de l'Essonne, Cédric Villani, annoncera sa candidature mercredi prochain. Le mathématicien s'était présenté à l'investiture de La République En Marche pour les élections municipales de 2020 à Paris. Mais depuis son échec face à l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, il dénonce une procédure viciée. Malgré les craintes exprimées par l'association Robin des Bois, la rentrée se fera normalement la semaine prochaine dans les établissements scolaires proches de Notre-Dame de Paris. Un troisième cas d'enfant avec trop de plomb dans le sang a été annoncé, mais a priori sans lien avec l'incendie de la cathédrale qui avait fait fondre plusieurs centaines de tonnes de plomb présent dans la charpente du monument gothique. La présidente de la région, Valérie Pécresse, le confirme pour les lycées. Suite aux opérations de dépollution, explique-t-elle, il n'y a plus aucun risque, même son de cloche à la mairie de Paris. Écoutez Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie.
Les Parisiens peuvent être rassurés. Oui, il y a eu des sujets de vigilance, de traitement du plomb, mais les conditions de sécurité pour l'accueil des enfants sont remplies sans aucun doute. Nous transmettrons, comme nous l'avons toujours fait depuis le début, de façon transparente les résultats détaillés d'analyse, mais évidemment, nous sommes en deçà des seuils qui nous ont été recommandés par les autorités sanitaires. C'est ce que nous considérons être les conditions de sécurité indispensables pour l'accueil des enfants. Il n'y a aucune, aujourd'hui, personne qui dit que les conditions de sécurité ne sont pas remplies, et en l'occurrence, pas le ministère de la Santé et pas l'Agence régionale de santé. Et c'est très important de ne pas jouer avec ce sentiment-là. Les parents peuvent être rassurés, nous sommes parents, nous aussi. Il n'y a aucun risque pour l'accueil des enfants, et donc elles ouvriront normalement. Et nous avions toujours dit que si ce n'avait pas été le cas, nous n'aurions pris aucun risque et nous n'aurions pas hésité une seconde à fermer des établissements le temps de retour à la normale.
Emmanuel Grégoire au micro de Margot Delpierre. L'association environnementale Robin des Bois avait porté plainte contre X en juillet, accusant les autorités d'avoir tardé à réagir et manqué de transparence dans la gestion de la pollution au plomb. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées se félicite d'un vrai mouvement vers l'école des enfants en situation de handicap. Ils seront 23 000 de plus qu'il y a un an à être scolarisés en cette nouvelle année scolaire. Cette rentrée 2009 symbolise la mise en place du grand service public de l'école inclusive, déclare Sophie Cluzel. Au total, plus de 361 000 élèves handicapés sont accueillis en milieu ordinaire, sans compter les 70 000 scolarisés dans les établissements médico-sociaux. Demain jeudi, temps calme sur la moitié ouest du pays, plus instable sur la façade est avec des averses, averses également sur la Corse, mais le soleil se montrera généreux sur les bords de la Méditerranée. Il fera 9 à 23 degrés au lever du jour. L'après-midi, les températures atteindront 19 à 27 degrés sur le quart nord-ouest, 27 à 31 ailleurs, mais encore 31 à 35 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.